parole du jour avec le Père Willem.
Parlons aujourd'hui des jardins de l'âme. Le jardin est un thème récurrent des textes sacrés de toutes les religions. Et les grands spirituels chrétiens ont utilisé de nombreuses images du jardin pour évoquer la croissance de l'âme. Le bien-aimé du Cantique des Cantiques comparé à un jardin clos dont la fontaine est scellée. L'harmonie végétale des cloîtres et jardins monastiques. Les quatre manières dont le jardin de l'âme peut être arrosé par la grâce et dont Thérèse d'Avila. Le jardin, lieu de repos et de vie. Le jardin où l'on fait la cour et l'amour. Le jardin, lieu de délices, est un motif d'inspiration constant dans la tradition spirituelle. Aux yeux des hommes, le séjour des dieux ne pouvait être qu'un vaste, merveilleux jardin. C'est dans les Champs-Élysées que se survivaient les héros et les saints de la civilisation grecque, et dans les textes sacrés des religions anciennes, les récits fondateurs ont souvent pour cadre un jardin, un paradis, terme venu de la Perse, où triomphait l'art d'humaniser la nature. Au Proche-Orient, notamment, terre aride ou torture à soif, les dieux mènent une vie de délices dans des palais entourés de jardins où coule l'eau de la vie, où pousse, parmi d'autres arbres merveilleux, l'arbre de la vie, dont le fruit nourrit les immortels, et l'arbre de la connaissance. Leur temple, ici-bas, entouré de jardins sacrés, tels ceux d'Ishtar Astarté, déesse de la fécondité, incite sur ce prototype. En Perse, Astarté, déesse de la fécondité, incite ce prototype. En Perse, au premier millénaire, avant notre ère, le lieu du bonheur est un vaste verger doublé d'un parc de chasse où l'eau circule dans de grands canaux en forme de croix. Dans la révélation chrétienne aussi, tout commence dans un jardin. L'Éden, mot qui signifie en hébreu « jouissance », est une oasis aménagée par Dieu et confiée à l'homme promu jardinier. En Éden, le ciel et la terre inaugurent une aventure commune qui s'achèvera dans une ville, une cité parfaite, la Jérusalem d'en haut. En attendant cette destination urbaine, c'est dans des jardins que se déroulent les moments cruciaux du drame humano-divin. Au jardin de l'Éden pousse l'arbre de vie et celui de la connaissance. Le fleuve aux quatre bras y coule parmi les pierres précieuses. L'homme y est attaché à la femme. L'Éden est le lieu du bonheur et de la familiarité avec Dieu qui s'y promène à la brise du jour. Oui, Dieu aime bien se promener. Or, un jour, de l'entrée dans l'humanité, dans le temps de l'histoire, l'Éden devient le lieu de l'épreuve et de la défaillance. L'homme et la femme en sont chassés, de peur qu'ils ne défaillent plus gravement encore. Mais l'espoir demeure que l'ange porté désormais en sentinelle abaisse un jour la garde pour permettre enfin l'accès à l'arbre de vie et au paradis perdu. mais il faudra passer par d'autres jardins, lieux d'épreuve eux aussi, et non de jouissance pour que l'espérance se réalise. Jardin de Gethsemane, nom qui signifie d'ailleurs pressurage, celui du fruit de l'olivier, jardin d'épreuve avant. Sur le gibet du supplice, au bois mort de la croix, jardin enfin de la mise au tombeau, cimetière, c'est de ce dernier jardin minéral que jaillira pour de bon la vie nouvelle, la vie ruisselant en vie éternelle. Celle-ci a d'abord pour les yeux noyés de larmes d'une femme cherchant dans la nuit son amour perdu, l'apparence d'un jardinier. Une boucle est apparemment bouclée. En réalité, cette scène de retrouvailles entre l'homme et la femme relance, mais sur une autre orbite, l'aventure de Dieu et de l'homme. Dieu en recherche l'un de l'autre. Marie-Madeleine figure de l'âme chrétienne qui deviendra l'aube des temps modernes, au XVIIIe siècle, la patronne des mystiques, inaugure justement la démarche de ceux qui, telle la fiancée du cantique, ne cessent d'arpenter la création en quête de leur amant divin. Il faut rappeler ici les jeux de l'amour décrits dans le cantique biblique, car ils ont été source d'inspiration pour ceux qui, tels Jean de la Croix, voudront chanter les affres et les joies du divin. Et c'est un divin jeu de cache-cache. Ces jeux se déroulent maintes fois dans un jardin aux essences rares, aux fleurs au plus fin arôme, aux fruits délicieux. L'allégorie est évidente, tantôt c'est la bien-aimée qui est un jardin bien clos pour son bien-aimé. Tantôt c'est le bien-aimé qui descend à ses jardins au parterre embaumé. Moment béni, mais rare, car le temps de la quête déborde de beaucoup celui de la puissance, lorsque la bien-aimée peut dire « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi ». Les auteurs spirituels chrétiens et à leur suite des maîtres soufis comme Ibn Arabi considéreront l'évocation de ces ébats dans le jardin du cantique comme des appels à l'intimité avec Dieu, jadis goûtés dans l'Éden des origines et aux noces mystiques. Appel de la mystique sponsale. Mystique sponsale, celle que développeront Saint Bernard, Jean de la Croix, Thérèse de Lisieux, par exemple, mais non Ignace de Loyola ou Charles Foucault. Musique du jardin fermé, qui est l'âme à l'image de Dieu, jardin à Dieu seul réservé. Aussi bien, l'image du jardin est-elle propre à inspirer une mystique de l'homme en référence explicite au christianisme? Ainsi, d'Antoine Saint-Exupéry, devenu agnostique mais resté profondément évangélique par son goût des âmes et le désir de les ensemencer par le haut, angoissé par le progrès du matérialisme de la société moderne, il écrivait le jour même de sa mort, dans une missive retrouvée sur son bureau, « Si je suis descendu, je ne regretterai absolument rien. La termitière future m'épouvante et j'ai les vertus de robot. » Mais j'étais fait pour être un jardinier.
Thank you.